Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Maëva, bonjour.
Bonjour.
Et de Demba, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler de l'association La Parallèle, qui s'est constituée l'automne dernier, je crois.
Alors, on s'est constitué en association en mai 2019, mais le collectif existe depuis l'automne, enfin depuis le mois d'août 2017.
Vous êtes installé actuellement au 16 rue Émile Laurence, à Die, dans les locaux et qui sont appelés Adamaya. Donc, c'est votre base de travail.
Oui, Adamaya, c'est un lieu qu'on a ouvert au mois d'octobre, début octobre. On a eu cette opportunité-là et puis on avait l'envie du coup d'avoir un lieu fixe qui nous permette de... qui soit un outil un petit peu pour les activités de l'association, notamment les cantines hebdomadaires qu'on fait tous les mardis. Et puis du coup, avec l'envie d'organiser aussi d'autres choses, certaines choses qui ont déjà eu lieu et puis des ateliers, des choses... régulière qui devrait s'y tenir, qu'on devrait développer encore cette année. Ouais.
Ce mouvement autour de Adamaya, c'est combien de personnes qui se sont retrouvées pour donner la main, en particulier aux migrants ?
Alors en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'on voit on se voit vraiment comme un collectif de gens exilés ou non, donc des Français, des gens d'ailleurs. On est tous ensemble et on est là pour s'organiser ensemble, pour essayer de faire en sorte que tout le monde arrive à se débrouiller, à s'en sortir. On est une trentaine, 30-35 personnes, voire un peu plus. Enfin après, on peut compter, si on voit le collectif au sens large, on est beaucoup plus nombreux avec aussi les familles d'accueil, les gens qui participent ponctuellement à des cantines ou autres.
Ouais. On présentera aussi tout ce que pratique comme activité l'association La Parallèle, hein, pendant l'émission. Et puis Demba, vous venez du Mali.
Oui.
Pourquoi en être parti ?
Pourquoi on est parti justement, je suis là ce matin pour représenter tous les membres de l'association Adamaya, notamment les jeunes migrants qui viennent de l'Afrique. Et ben, donc nous sommes là, donc on est dans une bonne main, donc du coup pour suivre notre démarche. Et ben, heureusement, donc on a eu des études pour avancer notre démarche. Notamment, il y en a qui sont encore mineurs, il y a les majeurs. Donc, du coup, pour l'ensemble, donc, ça va mieux, ça en avance. Quoi. Mais jusqu'à présent, quoi, on a besoin quand même de soutien, de coups de main donc, pour aboutir jusqu'au bout. Quoi.
Ces derniers temps, on entend souvent dans l'actualité les conflits qui s'étalent sur ces contrées d'Afrique. Le Mali n'étant pas épargné, est-ce qu'il y a aussi cette peur de ce qui s'y passe et qui pousse les gens à partir de là-bas ?
Oui, bien sûr. Pour le moment, Mali est considéré comme le pays en guerre à cause des... Les terroristes, notamment les djihadistes, communément les djihadistes. Bon, il y a des bandits armés aussi à côté. Mais du coup, je ne sais pas tout les détails. Quoi. Et ben, quand même, il y a certaines personnes qui ont fui à cause de la guerre. Il y a certaines personnes qui ont fui dans leur pays natal. Bon, à cause de plusieurs raisons. Donc, chacun a son raison de quitter au Mali. Donc, pour le moment, donc, on peut dire que le Mali il est encore en guerre.
Maëva, on peut parler aussi de cette cagnotte que vous mettez en ligne et par le biais de Hello Asso, un site de participation financière. Il suffit d'aller sur le site de Hello Asso et de taper association La Parallèle. Quelle est cette nécessité pour vous de trouver de l'argent qui permettrait quoi ?
Et bien maintenant qu'on a un local à 10, forcément on se pose la question de payer le loyer. Donc en fait jusqu'à maintenant déjà on avait, enfin l'ensemble des cantines ou des activités qu'on pouvait avoir étaient là pour alimenter la caisse de solidarité de l'association, du collectif, qui sert donc à faire en sorte que, voilà, que chacun arrive à se débrouiller voilà, au niveau financier aussi. Et maintenant qu'on a un loyer, on ne voulait pas non plus prendre ce local et que du coup ça prélève dans la caisse de solidarité. En fait, voilà, on ne voulait pas en tout cas que le loyer, avoir à payer un loyer aux dépens de la caisse de solidarité, qui est vraiment le principal, hein, pour l'association. Donc voilà, soit on arrive à financer ce local-là. Donc on s'était dit qu'on voulait essayer de financer ça par des souscriptions ou des dons réguliers de 5 euros, 2 euros, 10 euros par mois, pour certaines personnes qui seraient OK pour faire des dons mensuels. Et que voilà, si chacun donne 2 euros, 5 euros par mois, on peut déjà payer une bonne partie du loyer, ce qui ferait qu'on n'ait pas besoin de piocher dans la caisse de solidarité, qui pour l'instant voilà, est vraiment séparée. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette cagnotte. C'est vraiment pour nous aider à financer le local à Damaya. Et puis... À côté de ça, de toute façon, on accepte toujours, bien sûr, les dons, y compris pour la caisse de solidarité. Donc, il y a toujours possibilité de faire des dons en venant au local. Ou, voilà. Donc, vous pouvez venir nous voir. Donc, déjà, tous les mardis, il y a déjà pas mal de monde à dire qui est au courant et qui vient régulièrement manger aux cantines du mardi midi. Donc, à chaque fois, il y a une équipe qui cuisine et il y a entre 40 et 60 personnes qui viennent manger à prix libre. Voilà, donc... de temps en temps, enfin souvent des recettes africaines, mais pas que, surtout que là il y a de plus en plus de gens qui viennent nous filer un coup de main.
D'ailleurs, les cantines sont ouvertes actuellement ou vous avez pris... Si, c'est de nouveau ouvert. Ouais,
oui, même aujourd'hui quand même.
Aujourd'hui, oui.
Oui, le mardi, hein, oui. Tous les mardis, voilà. Donc à partir de midi.
C'est ça. On a juste fermé le 31, mais sinon tous les mardis, ouais.
Les activités qu'on peut trouver au sein de Adamaya, quelles sont-elles ?
Alors, de temps en temps, il se passe des événements qui sont organisés par certains membres de l'association, qui peuvent être des projections, des discussions sur différents thèmes. Mais ça, c'est très ponctuel. Et sinon, le local, à la base, il était vraiment... Enfin, on avait vraiment envie de développer aussi des activités qui puissent nous aider vraiment pour le collectif. Là, on aimerait développer des ateliers de langue aussi, multilingue même, pourquoi pas. C'est le local aussi où on peut se réunir, où on peut. C'est notre cuisine, hein, attitrée, même quand on fait des cantines à l'extérieur, parce qu'il y a des cantines du mardi, mais il y a aussi d'autres événements sur lesquels on est appelé pour faire à manger. Et puis, ponctuellement, on aimerait bien organiser des soirées, soit de discussion, soit. On devrait, si on y arrive, on devrait organiser au printemps une soirée de soutien, mais à l'extérieur du local cette fois-ci. Voilà. Mais pour l'instant, ça a encore un petit peu de mal à se structurer parce que comme on a beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de choses à faire à côté au niveau des démarches administratives, de l'organisation collective et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu du mal à mettre en place les choses qu'on avait prévues avant d'ouvrir ce local, quoi. Ça va se faire petit à petit.
Demba, quelle est ta participation au sein de l'association La Parallèle ?
Par contre, premièrement, moi, je suis un représentant des migrants. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement aussi, donc, par rapport à ce que Maïva, elle vient juste de dire, là, les cantines du mardi, et ben, c'est moi qui m'en occupe pour faire les desserts pour tout le monde. Bon, heureusement, j'ai eu la chance pour je suis en train, quoi. Je suis en train d'apprendre la pâtisserie. Je suis un apprenti, donc ça me permet de faire les gâteaux pour tout le monde. Et ben, ça se passe très bien quand même. Donc, notamment aussi, donc, je donne les idées avec les copains. Donc, nous, on est là, ça va au moins de 2 ans. Donc, du coup, on connaît pas mal les gens, quoi. Donc, on connaît pas mal les fonctionnements. Donc, du coup, on donne des idées. Donc, voilà. Notamment les démarches et l'administration, quoi.
Donc la pâtisserie, c'est ton activité préférée ?
Eh ben, c'est mon boulot en fait. J'ai en train de faire l'apprentissage là.
Et ça s'opère auprès d'un employeur et puis en alternance dans une école, c'est ça ?
Bah oui, c'est l'apprentissage en CAP. Hein. Donc par contre, 3 semaines à l'entreprise, 1 semaine à l'école. Ça fonctionne pendant 2 ans.
Pendant 2 ans, ça se déroule. Il y a la pâtisserie, certes, mais il y a l'entretien des lieux, les démarches administratives, je suppose qu'aussi tu dois aider tes compatriotes ou des personnes en exil à démarcher auprès de l'administration.
Bien sûr. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour faire les déplacements. Il y a certaines personnes dont je peux lui donner les idées sans me déplacer, quoi. Par rapport aux lieux pour aller au consulat, à l'ambassade, de faire le passeport, carte consulaire, comment ça roule, quoi. Je connais un petit peu, notamment les Maliens, ils ont beaucoup de difficultés par rapport pour pouvoir des passeports. Parce qu'il faudra que tu fasses face des recensements. Donc, on appelle ça la carte INA. C'est très, très, très difficile pour l'avoir. Donc, du coup, je connais certains fonctionnements pour les aider, quoi. Donc, en même temps, pour faire venir leurs papiers en provenance en Afrique. Donc, je peux les aider aussi.
Maëva, justement, les démarches administratives sont sans cesse modifiées et toujours peut-être au détriment des demandeurs.
Oui, les démarches administratives, elles sont. Il y a vraiment plein de situations différentes, hein, de toute façon. Effectivement, ça évolue régulièrement, mais bon, on essaye de. Enfin, il faut suivre, hein, de toute façon. Il y a plusieurs. Effectivement, il y a les personnes. Enfin, il y a des demandes d'asile qui sont. C'est surtout sur ce point-là qu'il y a beaucoup de changements. Parce que, bon, le droit d'asile, c'est ça devient de plus en plus du pipeau. Et que, du coup, les choses sont de plus en plus faites pour mettre des bâtons dans les roues pour les personnes qui sont en demande d'asile. C'est vraiment très difficile maintenant d'obtenir l'asile. Et du coup, effectivement, très régulièrement, ça change de préfecture. Les personnes doivent se rendre. Avant, les personnes dans le Diwa dépendaient de Grenoble. Maintenant, elles dépendent aussi souvent de Lyon. Donc, elles doivent faire des allers-retours à Grenoble, des allers-retours à Lyon. Enfin, c'est relativement compliqué. Il y avait l'allocation aux demandeurs d'asile qui était versée aux demandeurs d'asile jusqu'à maintenant. Ils avaient une carte de retrait, ils pouvaient retirer du liquide et c'était entre 200 et 400 euros selon les situations. Et donc, ils arrivaient à se débrouiller un petit peu avec ça. Maintenant, depuis peu de temps, ils ne peuvent plus retirer de liquide. Ils peuvent seulement se contenter de payer dans des endroits par carte bancaire, mais ils ne peuvent plus du tout avoir accès à de l'argent liquide. Donc, ça complique considérablement la vie. Donc des choses comme ça, quoi. Mais il faut suivre. Et puis, voilà, il y a les démarches pour les mineurs aussi, donc auprès du juge pour enfants, puisque l'ASE, souvent, ne les prend pas en charge, ne les reconnaît pas mineurs. Donc il y a tout un tas de démarches à faire pour qu'ils soient reconnus mineurs et qu'ils puissent être protégés, protégés entre guillemets, mais en tout cas, pour qu'ils puissent, en tant que mineurs, avoir un statut qui leur permette d'avancer et qu'ils puissent, à leur majorité, être régularisé si tout se passe bien. Voilà.
Maëva, vous avez peut-être eu connaissance de cette raison que les banques ont fait en sorte que les retraits ne se fassent plus en liquidité.
À part pour compliquer la vie des gens, je vois pas. Non, ça à part. De toute façon, ils n'arrêtent pas de mettre des bâtons dans les roues. Je pense pas qu'il y ait d'autres raisons que ça. Hein. En fait, c'est une carte spéciale. C'est pas une carte d'une banque lambda comme un citoyen habituel. Hein. C'est pas une carte bancaire. C'est une carte spéciale qui peut être alimentée que par l'ADA. Vous pouvez pas vous en servir de compte bancaire, absolument pas. C'est juste la carte de retrait, la base qui vous servait de retirer l'argent de l'ADA. Et là, maintenant, du coup, cette carte-là ne sert plus qu'à payer avec des terminaux de carte bancaire et ne sert plus du tout, ne peut plus servir à retirer de l'argent. Ouais. Ça, c'est une décision de l'État. Hein.
Dans les commerces, donc, principalement.
Oui. Hein.
Et tout type de commerce.
Et même pas. Non, justement, c'est ce que j'en discutais hier avec un ami là qui me disait que à la base, ils sont censés pouvoir faire des transactions dans tous les commerces qui ont un terminal de carte bancaire. Et en fait, c'est pas du tout si simple que ça. Ça marche très bien dans les grandes surfaces, dans les Lidl et compagnie. Et par contre, dans les petits commerces, une fois sur deux, ça passe pas. Ou deux fois sur trois. Donc effectivement, c'est compliqué, quoi. On va manger quelque part et puis au moment de l'addition, on ne peut pas payer. Enfin, c'est compliqué.
Cette passion de la pâtisserie, vous l'aviez déjà découverte en étant au Mali?
Oui, mais ce n'était pas tout à fait parfait. Et j'étais en boulangerie, hein, donc j'ai découvert un petit peu les parties des pâtisseries. Et arrivé ici, ça me plaît directement, je me plonge dedans.
Au fond, qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton avenir de pouvoir retourner aussi au Mali ou alors de plutôt trouver un cheminement qui te permette de t'installer là où tu pourrais, quoi?
Le but pour le moment, j'aimerais bien prendre tout ce qui m'intéresse pour le moment. Donc après, on verra quoi.
Il y a aussi une démarche que vous faites, le parrainage civil ou baptême républicain. En quoi cela consiste et ça permettrait quoi?
Alors c'est un souhait, hein, plus qu'un quelque chose. Enfin c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore, mais ça fait bientôt 2 ans qu'on aimerait bien que ça puisse se faire. Donc en fait, ça consiste à ce que des élus parrainent, donc symboliquement, des personnes étrangères, quelle que soit leur situation administrative, avec ou sans papier, ou réfugiés ou autres. Pour signifier en fait qu'elles les soutiennent, que c'est des personnes qui sont intégrées, qui sont là sur le territoire, qui sont importantes pour le tissu social local, que voilà, c'est vraiment un soutien apporté par des élus aux personnes étrangères qui sont dans une situation qui est vraiment compliquée, quoi, qu'on enlève toute légitimité de pouvoir vivre ici, alors que normalement tout un chacun devrait pouvoir vivre là où il l'entend sur la planète. Mais...
Pour ça, vous avez écrit à beaucoup de municipalités. Et quels en sont les retours globalement?
Pour l'instant, bon, c'est très long. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de réponse favorable. On avait eu un entretien avec une personne de la mairie de Die, mais qui n'a pas donné suite. Ça fait assez longtemps qu'on demande aussi au maire de Lucandiwa et qui est pas contre, mais le temps que ça se fasse, enfin bon voilà, c'est un peu compliqué. Et puis on avait par le biais de la communauté de communes, on a fait passer aussi un petit message sur le parrainage républicain, ce que ça signifie, en quoi ça consiste, à l'ensemble des, enfin que la communauté de communes a transmis à l'ensemble des mairies du territoire. Mais c'est pareil, on n'a pas encore de réponse. Et donc voilà, on aimerait bien qu'un jour ça puisse se faire. Ça s'est fait à Saillant l'année dernière, ou il y a un peu plus d'un an. Voilà, symboliquement, c'est quand même vraiment important, à la fois symboliquement, donc y compris moralement aussi pour les personnes qui sont dans des situations du coup assez tendues, assez difficiles ici sur le territoire. Et ça peut aussi vraiment les aider dans leur démarche administrative, de montrer qu'ils ont vraiment le soutien des élus locaux et qu'ils comptent vraiment dans le tissu social du territoire, quoi.
Alors, vous citiez l'exemple de Saillant pour l'année dernière. Concrètement, ça permet quoi à la personne exilée?
C'est quelque chose qui permet de faire valoir son intégration au moment des démarches en préfecture, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui... On a eu déjà le soutien de la communauté de communes auprès de la direction du travail pour... obtenir une autorisation de travail pour un jeune. Donc ça, déjà, c'était assez bien. Et je pense que ça a compté. Voilà, une lettre des élus du territoire qui disent que c'est important de pouvoir embaucher. Enfin voilà, que cette personne était vraiment légitime à cette place-là et qu'il fallait pouvoir lui donner l'autorisation de travailler. Et donc voilà, ça peut aider globalement, enfin, surtout au niveau des démarches en préfecture, parce que ça, c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la démarche d'asile, qui est indépendante de ces questions, qui est théoriquement indépendante de ces questions d'intégration, qui est plutôt dépendante de la situation qui a fait que la personne a quitté son pays et tout ça. Mais en tout cas, pour tous ceux qui vont avoir à un moment donné à solliciter un titre de séjour en préfecture, ça peut vraiment compter, ouais.
Cette idée de baptême républicain, c'est en même temps rageant pour vous d'avoir plus du silence que des refus?
Eh ben, oui, c'est long, on comprend pas tellement... Je pense aussi que c'est pas une démarche que les maires ou les élus connaissent bien, et que du coup, faut aussi qu'on prenne le temps de bien expliquer les choses pour que ça puisse éventuellement être possible, ou que parfois ils seraient pas contre, mais si on leur fournit pas vraiment le mode opératoire dans les mains pour le faire, et ben ça risque on peut attendre longtemps avant qu'il se passe quelque chose. Donc c'est aussi à nous peut-être d'être vraiment plus concret dans la demande, en disant bon, ça peut se faire de cette façon, voilà, et qu'il n'y ait pas pour eux besoin de faire des recherches ou de voilà, On espère quand même qu'il y aurait quelques maires sur le territoire qui seraient d'accord pour faire ça, ouais.
Des structures comme la vôtre, l'association La Parallèle, il en existe d'autres sur la Drôme, par exemple, et avec qui vous êtes en lien pour trouver des solutions à vos problèmes?
Oui, oui, sur la Drôme, bah, y a par exemple Voix Libre à Saillant et à Vercheny, voilà, avec la maison d'Elisa. Y a aussi à Valence le collectif Rosa qui s'occupe aussi de, enfin, notamment de ces questions-là. On est en lien aussi avec les collectifs de Gap et de Briançon, où il y a certaines personnes du collectif qui sont, voilà, qui sont bien, qui font bien le lien entre les différents collectifs. Et puis nous, c'est à la base justement parce qu'on était en lien avec les collectifs de Briançon et de Gap qu'on a développé cette action-là ici. Parce que c'était important et possible de faire en sorte que des personnes puissent venir vivre ici, alors que voilà, qu'elles étaient bloquées sans solution dans les Hautes-Alpes, quoi. Parce qu'à la base, du coup, l'association, on a surtout cherché des hébergements pour permettre d'accueillir des personnes donc, qui arrivaient d'Italie, qui arrivaient d'Afrique, pour la plupart, avant ça, de trouver des solutions d'hébergement ici. Pour qu'elles puissent, parce que donc elles se retrouvent sinon sans hébergement, que ce soit des mineurs qui n'ont pas été reconnus mineurs ou des majeurs qui se retrouvent sans solution en fait, hein, et qui partent dans une ville, dans une autre ville pour essayer de trouver quelque chose, soit pour les accueillir, soit pour les accompagner, et que très souvent il n'y a pas grand chose quoi. Et du coup, ici, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a un bon réseau qui s'est développé entre tout le monde. En fait, chacun a développé son petit réseau, ses connaissances. Il y a vraiment du lien qui s'est construit ici. Et du coup, malgré toutes les difficultés au niveau administratif, au niveau de des situations qui sont vraiment compliquées, eh ben, il y a quand même moyen de vivre, de vivre un petit peu plus ou moins normalement, quoi.
Est-ce que encore actuellement vous subissez des pressions des forces de l'ordre pour justement rechercher des personnes, de les arrêter en quelque sorte, ou ça s'est plutôt calmé?
Non, pour l'instant on n'a pas eu de difficultés particulières de ce côté-là. Disons que ils n'ont pas été recherchés, et voilà. Après, parce que, comme on disait, il y a des situations diverses, hein. Il y en a qui ont réussi depuis à avoir des papiers, d'autres non, d'autres qui sont en attente de leur réponse de demande d'asile. Mais du coup, ils ont plutôt le risque individuellement de se faire contrôler par la police, à un moment donné. S'ils sont en situation régulière, tout va bien. Mais voilà, c'est plutôt des risques au niveau individuel. Et à ce moment-là, il faudra qu'on voit comment on arrive à réagir face à ça. Mais pour l'instant, on a fait face à quelques gardes à vue. Mais voilà.
Parmi les structures qui existent dans le DIWA et qui portent assistance aux migrants et aux exilés, il existe le RADAR, hein, le réseau DIWA des... D'accueil des réfugiés. Merci, Maëva. Quelles sont vos relations avec...
On a pas de relation particulière. On travaille pas du tout de la même façon, ni auprès du même public, puisque comme ils s'attachent à le dire, ils accueillent des réfugiés légaux. Donc effectivement, c'est une certaine démarche. Ils travaillent avec les préfectures, ils font venir des personnes qui ont déjà le statut de demandeur de réfugiés avant même d'arriver sur le sol français. C'est très bien, parce que c'est vraiment des personnes qui sont qui sont en grande difficulté dans des camps. Enfin, c'est très très bien qu'ils puissent venir en France. Simplement, le positionnement politique du RADAR fait qu'ils restent campés sur cette idée de légalité, de légitimité des réfugiés qu'ils accueillent. Et que nous, on accueille tout le monde, en fait, quelle que soit sa situation. Et d'autant plus des gens qui, de toute façon, sont arrivés là et qui... Et qui ont besoin, qui ont besoin d'être accueillis, quoi. Voilà.
Demba, qu'est-ce qui a fait que tu puisses te retrouver en France, de par la langue, hein, certes, la langue française, mais quelle était pour toi l'idée que tu te faisais de la France avant de partir d'Afrique?
Non, pour le moment, les idéals que pour pouvoir avoir mon diplôme, Ça, c'est à la base en France. Et ben, notamment, précisément au Mali aussi. Donc, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, quoi, ouais, pour l'instant.
L'important pour toi, c'était de pouvoir vivre en toute indépendance?
Non, pas tout à fait. Les idéals que pour pouvoir d'avoir mes diplômes d'abord, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Dès que j'aurai mes diplômes, donc je peux travailler. Je pense que n'importe où, là où je veux. Je pense avec le diplôme français.
Là, tu en es à ta première année ou seconde année de formation?
Eh ben, moi j'ai fait 3 ans, donc je suis en deuxième année là. Ouais, il me reste encore une année.
Et tu envisagerais de travailler dans quel type de commerce? Commerce artisanal ou plutôt industriel? Comment verrais-tu cette activité?
Bon, pour l'instant, je ne vais pas sortir dans ce domaine que j'ai là. Donc, j'aimerais bien travailler dans le domaine des pâtisseries, en fait. Quel qu'en soit, en France ou ailleurs. Ouais.
Il y a d'autres choses qui te plaisent dans la vie que la pâtisserie et auxquelles tu pratiques des activités ou des choses autour d'une idée?
Bah oui, bon, en particulier pâtisserie, boulangerie, ça c'est mon premier choix. La oui. Deuxième chose, c'est l'élevage.
Ouais. L'élevage ovin?
Le bovin, ouais, peu importe quoi. Même les poules, ouais.
Ce que tu pratiquais déjà au Mali?
Eh ben, j'avais certaines aussi. Ouais, certains animaux, oui.
Certains animaux. Ouais. De toute taille, je suppose?
Oui, ils étaient tous les bovins. Il y avait bovins, il y avait des chèvres.
Oui.
Ouais. Quelques moutons quoi, aussi. Ouais.
Tu souhaiterais aussi continuer cette activité en étant, par exemple, dans le Diwa, qui a quand même la culture de l'élevage hein, ici?
Eh ben oui, bien sûr. En fait, ça n'a pas marché. Sinon, je devrais aller en élevage pour faire des CAP en élevage. Eh ben, ça n'a pas marché puisque bon, j'ai pas eu l'école au CFA, voilà, pour m'inscrire quoi. Donc c'est pour cela donc j'ai pris d'autres choses. C'est en pâtisserie quoi. Ouais. Sinon, on a eu un entretien avec une dame qui pourrait m'embaucher. Qui était prête pour moi. Et bah, donc, on a appelé le CFA, donc ils ont dit que cette année, donc, ils n'ont pas des CFA en élevage.
Les cantines du club Mafé, donc, c'est quoi? C'est justement cette ouverture du mardi avec la cantine donc, où vous préparez des repas. Toi, tu y prépares les desserts, c'est ça?
Oui, pas seulement les desserts. Des fois, moi, je m'en occupe, oui. Pour faire la cuisine. Donc après, j'ai fait la dessert aussi à côté.
Et tu prépares pour combien de personnes quand vous organisez ces repas?
Et ben, ça dépend les moments. Bon, pour le moment, comme il n'y a pas beaucoup du monde, donc on fait au moins de 60 personnes, quoi.
Ce qui n'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, comment vous prévoyez la quantité de personnes? Est-ce que vous opérez par réservation? Comment ça se produit? Maïva,
non, pardon. Non, non, on ne demande pas de réservation. On sait qu'on a un certain nombre d'habitués et du coup on compte sur une cinquantaine de personnes. Là c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu la période de creuse, ce serait peut-être plutôt 40 et puis jusqu'à 60 personnes. Mais très souvent on se plante, des fois il manque, des fois il y a trop, voilà, forcément.
Vaut mieux pas assez que trop? Des fois.
Non, quand il y a trop, ça se mange toujours, on est nombreux.
Ça se garde bien, et puis en plus avec l'hiver.
Ouais,
il y a aussi des projections accompagnées de discussions avec des thèmes très variés, mais quand même surtout sur l'exil, sur les difficultés de la société d'aujourd'hui.
Pas pour l'instant. Pour l'instant, les projections qu'il y a eu, c'était plutôt dans le cadre d'un film, d'un cycle de projections qui va peut-être avoir lieu sur... plutôt sur le féminisme, le premier film c'était sur la contraception masculine. Enfin voilà, en fait du coup c'est des événements qui sont organisés par des membres du collectif qui ont aussi envie d'apporter autre chose. Donc c'est pas forcément que sur ce sujet-là. Par contre, on n'a pas encore organisé, mais on aimerait vraiment faire des soirées de discussion régulièrement sur ce sujet-là, par contre, effectivement, qui nous a rassemblés à la base. Ouais.
Vous parlez de féminisme tout à l'heure. Là. Quelle est la part de femmes parmi les exilés et migrants?
Bon, c'est une petite minorité.
Et c'est dû à quoi, justement, qu'il y ait une minorité?
Bon, je pense que déjà, elles sont quand même moins nombreuses à partir, mais la route de l'exil pour les femmes est encore plus compliquée. Très souvent, elles sont prises dans des réseaux de prostitution qui font qu'on ne les voit pas arriver ici. Enfin, on ne les voit pas comme ça, isolées, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a plein de facteurs que j'ai pas, enfin j'ai pas vraiment les clés pour analyser le phénomène en entier. À mon avis, c'est bien compliqué, mais il y a de ça, ouais.
D'ailleurs, Demba, quel a été ton parcours pour venir jusqu'en France depuis le Mali?
Ah oui, les chemins étaient bon. J'avais un peu de difficulté par rapport entre mon père, donc voilà, c'est ça qui me permet de quitter dans mon pays natal, quoi.
Mais ensuite, tu es passé par quel pays pour arriver jusqu'en France? Comment ça s'est produit? Quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans ce trajet?
Ah oui, la difficulté était pure, quoi. Premièrement, j'ai passé au nord du Mali. Donc, Gao, Tombouctou, Gao, vers Kidal, donc en passant, donc, qui fait frontière en Algérie. Donc, arrivé en Algérie, donc, on a essayé de pouvoir avancer encore jusqu'en Libye. Arrivé en Libye, donc voilà. Donc, c'est là-bas on a essayé de traverser le Méditerranée pour entrer en France, en Europe.
Vous êtes obligé, en étant en Algérie, de passer par la Libye pour aller vers la France. C'est de quel fait, au niveau de l'Algérie, il y a des contraintes pour éviter justement des départs vers la France depuis ce pays?
Eh ben, c'était pas nos choix. Donc, on n'a pas prévenu, quoi. On n'a pas prévenu. C'est le problème qui nous a quittés dans notre pays. Donc, on a essayé d'éloigner dans notre pays pour pouvoir vivre. Et bah, donc, arrivé devant, donc on trouve que ça ne va pas mieux encore. Donc on essaie d'avancer encore, avancer encore, avancer encore. Donc, arrivé en Libye, donc, c'est à l'enfer, quoi. Donc on préfère. Il vaut mieux qu'on traverse la longue Méditerranée, donc, pour rentrer en Europe. Donc, c'était plus facile que de retourner encore.
Ah, c'est impossible de retourner en arrière, en fait, de toute façon. Quand on est en Algérie, en Libye, on ne peut pas faire marche arrière.
Non, pas du tout.
Et comment s'organise la traversée de la Méditerranée? Quels sont les moyens qui sont disponibles à ce moment-là pour vous?
Eh ben, cette domaine-là, je ne connais pas trop, mais bon, je peux juste en parler. La difficulté que moi j'ai rencontrée, eh ben, moi je n'ai rien payé comme l'argent pour traverser la Méditerranée. En fait, moi j'étais embarqué par les bandits armés pour m'avoir ramené en prison. Et ben, j'ai fait un mois et demi là-bas. Donc, un jour, donc, ils ont venu. Donc, bon, moi, j'ai pas mal de compréhension des langues arabes, quoi. J'ai parlé en arabe un petit peu. Et ben, ils ont venu de nous chercher. Donc, maintenant, aujourd'hui, il n'y a personne qui va dormir ici. Donc, on va vous amener dans un autre endroit. Donc, tout le monde avait peur, puisqu'ils ont venu avec les calaches, ils ont été masqués, voilà, machin. Et ben, directement, ils ont venu avec les camions frigonettes, donc, de nous embarquer, nous embarquer, nous tous, quoi. Après, on a pris la route, trois quarts d'heure, 45 minutes comme ça, de route, quoi. Donc, après, ils nous ont amenés jusqu'au bord de l'eau, donc c'était l'eau Méditerranée, quoi. Bon, non, c'était la mer. Et ben, il nous a dit faire descendre là-bas, donc de nous classer. Donc après, ils ont fait sortir les plastiques, les zodiacs. Donc de monter devant nous-mêmes. Donc en ce moment, moi j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup peur. Puisque, bon, les premières choses, moi j'avais jamais vu la mer. Puisque au Mali, il n'y a pas la mer. Donc du coup, je vois la mer. Donc il y avait des vagues. Donc ça souffle, puis ça fait beaucoup de bruit, ça lance, quoi. Bon, j'ai rencontré beaucoup de difficultés quand même. Donc, arrivé là-bas encore, donc ils ont essayé de gonfler les zodiacs, de remonter, après de faire des embarquements. Donc, Il y avait un mec à côté de moi, donc lui, il demande quoi, donc, quoi, on va où maintenant, le monsieur? Donc directement, le mec, il a tapé avec les calaches, quoi. Donc, il est blessé à sa tête. Et bah, donc, tout le monde, personne n'a le droit de parler. Personne n'a le droit de parler. Il parlait en anglais, quoi. En anglais et en arabe aussi. Donc, la grande majorité, il comprend pas en arabe. Donc, il y a certains qui comprennent un peu. Donc, on est resté là-bas pendant 2 heures de temps. Donc, après, donc, il nous a embarqué de nous charger dans un jack, donc de nous lancer sur l'eau Méditerranée. Donc dès qu'ils ont fait ça, donc tout le monde a pris un esprit, donc on part en Europe comme ça, quoi.
Ce sentiment de peur, est-ce que il est arrivé dès le départ depuis le Mali, ou alors c'est une peur que tu rencontres dans ce parcours, et est-ce que aujourd'hui en France tu l'as encore, cette peur?
Pour l'instant ça va, pour le moment ça va. Quand même je me pense souvent à ça, donc ça, c'est une histoire que je vais jamais oublier. Ouais, parce que je n'ai jamais rencontré des difficultés comme ça. C'était la première fois. Donc bon, j'espère que ça va être la dernière fois aussi. Donc voilà, je me sens très bien pour le moment en France. Ça va mieux.
Maëva, ton implication au sein de l'association La Parallèle, je suppose que tu as dû opérer sur d'autres associations, d'autres structures dans cette démarche, mais cette création donc de La Parallèle, qu'est-ce qui t'a motivé ?
À la base, j'étais pas toute seule du tout. On était une quinzaine à peu près en août 2017, du coup, à avoir été sollicitée en fait par des amis qui habitaient dans les, enfin, qui étaient du Diwa, qui étaient partis dans les Hautes-Alpes et qui faisaient face à ce problème-là en fait de l'arrivée massive par Briançon, enfin par les Alpes, à l'endroit de Briançon, de personnes. Migrantes et qui du coup étaient dans les Hautes-Alpes sans aucune solution, sans aucune prise en charge, et que du coup ils essayaient eux sur place d'ouvrir des squats, d'ouvrir des hébergements, d'accompagner un peu les personnes qui arrivaient mais qui étaient trop nombreuses, et que du coup ils nous ont invités dans un premier temps, ils nous ont demandé si on pouvait au moins venir faire des cantines sur place, parce qu'on faisait déjà ça avant avec quelques les amis du collectif. Et du coup, on a été dans un premier temps faire ça, rencontrer les gens sur place, les associations, les collectifs, et puis les gens donc, qui arrivaient ici. Et puis, rapidement, on s'est dit que c'était bien aussi de développer quelque chose ici qui leur permette d'avoir une porte de sortie, en fait. Et que dans le Diwa, il y avait potentiellement des possibilités pour de l'accueil. Voilà. Et que... voilà. Mais du coup, c'était très. Enfin, on était assez nombreux au départ. On est moins. Enfin, du départ, on n'est plus très nombreux, mais on est devenus nombreux du fait des copains africains qui sont arrivés là aussi. Et voilà, et on continue ensemble.
Et effectivement, vous organisez, vous proposez ce service hein, de La Parallèle pour les cantines, et vous pouvez ainsi. Être présent lors de manifestations culturelles, par exemple?
Oui, oui, on nous appelle du coup pour l'anniversaire d'Air Diwa, par exemple. On a fait aussi le jour de l'an à la manivelle. Enfin, voilà, on nous appelle assez souvent. Il y a le théâtre qui avait envie aussi de faire des choses avec nous de temps en temps. Voilà, c'est vrai qu'on commence à avoir une petite notoriété sur le Diwa.
Adamaya, d'où vient ce nom?
Vas-y,
Ça vient en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est notre langue natale. Adamaya, ça veut dire que l'humanité.
Alors actuellement, quelles sont les difficultés que l'on rencontre encore pour les migrants et les exils venant d'Afrique?
Il y a des difficultés sur le trajet déjà, qui sont dues à des pays qui traversent, qui sont... Donc, où la situation est souvent très compliquée politiquement, et où en plus les politiques européennes font qu'on délègue à ces pays-là la maîtrise des flux migratoires, en fait, et que du coup on leur donne de l'argent et des moyens militaires pour limiter l'exil. des Africains, en fait. Et ces moyens militaires et ces injonctions de maîtrise des flux dans les mains de gouvernements autoritaires, dictatoriaux ou dans des pays qui ont une situation politique très instable comme la Libye, fait que la situation pour les migrants est vraiment très très difficile sur place, avec beaucoup de maltraitance, de torture, des conditions très très compliquées. Et ça, c'est vraiment beaucoup dû, d'une part, à la situation instable, mais surtout à l'injonction des pays européens qui demandent à ces pays-là de maîtriser les flux migratoires à leur place, quoi. Donc ça, c'est une partie du problème. Et puis après, il y a aussi le fait qu'en arrivant en France, le problème est, ils sont loin d'être arrivés, en fait, au niveau des difficultés. Déjà par le fait qu'on les considère comme des clandestins, des illégaux, des illégitimes, alors que la Convention des droits de l'homme garantit normalement à tout homme sur la planète la liberté de circulation, et que malheureusement les Occidentaux qui ont cette liberté de circulation, mais c'est tout, hein. Bon, après, le problème est vaste et il y a énormément de sujets sur lesquels on pourrait parler longtemps, mais globalement il y a bien ce problème là
Actuellement, au niveau des médias, on entend moins parler de l'Italie, qui, à l'époque de l'extrême droite au pouvoir, mettait le forcing pour tout empêchement d'entrée de territoire. Est-ce que ça s'est assoupli depuis le changement de gouvernance ?
Du coup, pendant toute cette période-là, la route migratoire s'était pas mal déplacée par le Maroc et l'Espagne. Et du coup, les personnes qui arrivaient d'Italie, étaient des personnes qui étaient depuis assez longtemps en Italie et qui, avec ce régime-là, n'avaient plus de possibilités en Italie, voire même ont perdu leur papier là-bas ou quoi. Et là, maintenant, je pense que c'est moins pire, mais on n'a pas encore de... Enfin, moi, j'ai pas spécialement d'écho. Je suis pas sûr que ça soit encore... que ça se soit bien amélioré, quoi.
Demba, ton impression de passage dans tous ces pays que tu as dû traverser, est-ce que tu ressentais une injustice ?
Peut-être en Libye. En fait, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire comme de bon par rapport à Libye. Moi, j'étais resté là-bas pendant quelques mois. Par contre, c'est mon oncle qui m'a ramené à Libye. On travaillait tous ensemble. Donc, du coup, on est resté les premiers 3 mois. Donc, ça s'est passé bien. 4 mois, donc, on a commencé à rencontrer plusieurs difficultés qui nous parviennent des bandits armés, des fonctionnements des blocs, des pertes de travail. Mon oncle, il m'a parlé, il m'a dit qu'il préférait qu'on avance encore, donc toujours, on est encore en Afrique, quoi. Je lui demande qu'on va y aller où. Il m'a dit qu'on va y aller en Égypte. On était en train de s'organiser entre nous. On était comme ça, c'était les jours au lendemain, ils partaient au travail, les bandits armés, ils ont attrapé, pour ramener en prison. Moi, je me suis dit que vraiment, trop c'est trop, c'était la deuxième fois que les bandits armés, ils attrapent. Moi, je me suis dit que vraiment, ça, c'est inacceptable, les pays qui est comme ça là, donc il y a pas un gouvernement, chacun fait comme il veut, quoi. Ça c'est inacceptable. Il y a pas une justice, il y a pas un militaire qui existe, notre vie est en danger, quoi. Moi, j'ai resté comme ça. Comme j'ai travaillé dans une boulangerie, j'ai essayé de parler avec mon chef d'apprentissage, il m'a rien dit comme des spéciales, quoi. C'est à moi qui vois, quoi. J'ai resté comme ça. Comme j'avais pas mal de copains, les Africains comme moi, on a essayé de parler ensemble, de réfléchir. On a pris une journée pour aller à l'ambassade du Mali. il ne nous a pas parlé un grand-chose. Il nous a dit qu'il ne peut pas faire un grand-chose par rapport aux les pays qui ont comme ça. Donc, quand même, s'il y a des volontaires pour rentrer ce pays, donc, ils vont nous faire les inscriptions. Mais il n'y a pas une date. Donc, voilà, on attend les décisions, quoi. Donc, directement, on s'inscrit en même temps, à ces jours. Donc, on attendait pendant, après 2 mois encore, quoi. Donc, mon oncle, il était encore en prison, donc il est ressorti. Donc, après, il m'attrape, donc, c'était mon voyage pour venir jusqu'en France maintenant.
Demba, tu représentes les Maliens ou même d'autres pays?
Non, pas forcément les Africains, oui.
Les Africains?
Oui, puis nous, on est plusieurs, on a une vingtaine, donc différentes nationalités.
Est-ce que toutes ces personnes ont envie de dire une chose?
Oui. Il y a certaines personnes qui ont rencontré beaucoup de difficultés. Bon, ils ne veulent pas garder, quoi. Il ne veut pas garder, donc il voulait juste parler un petit peu par rapport. Bon, je ne connais pas grand chose, mais il y a certaines qui m'ont rencontré leurs difficultés, pas en Afrique, mais en France ici. Bah, première chose, pour s'installer en France. Donc, pour s'installer, il faut avoir des papiers d'abord. Donc, c'est ça qui est une grosse difficulté. La deuxième fois, c'est l'hébergement, notamment pour pouvoir de travail aussi. Voilà. Les grands majorités, ça, c'est leur difficulté, en fait. Pour finir, j'aimerais bien remercier tous les membres de Adamaya. Eh ben, moi, je suis là, ça fait 10 ans. Donc, dès que je me rejoins dans cette association-là, donc, voilà, je me trouve chez moi, quoi. Donc, par la grâce de Dieu, donc, je me sens très bien. Toutes les démarches, il fait comme il faut, et ben, avec mon pote. Donc, heureusement, moi, j'ai eu mon résidence. Donc, j'ai travaillé régulièrement. Donc, j'ai remercié, quoi. Ça, c'est l'humanité. Moi, j'ai attendu depuis en Afrique. Il y a l'humanité en France, notamment en Europe. Donc, moi j'ai commencé à goûter quand même. Mais moi, j'aimerais bien dire que concrètement, vous citoyens, d'apporter toujours, on a besoin de votre accompagnement, votre contribution pour pouvoir nous aider vraiment. Merci.
Et oui, en réponse, Demba, moi je veux aussi te remercier et vous remercier tous parce que voilà, c'est super chouette que vous soyez là, que vous faites vraiment partie de la vie ici et qu'en fait on vit tous ensemble et c'est chouette. L'adresse mail c'est la-parallèle@mailo.com.
Maëva et Demba, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler donc de l'association de la Parallèle qui est basée au local Adamaya au 16 rue Émile Laurent.
Et puis si vous voulez venir manger ou venir nous rencontrer, on devrait aussi ouvrir sûrement une demi-journée de permanence au local où c'est possible de trouver quelqu'un pour boire un café, pour discuter ou pour éventuellement participer aussi.
Et rappeler donc aux éditeurs pour leur soutien s'ils le souhaitent en allant sur le site de Hello Asso en tapant association La Parallèle. Si vous voulez contribuer financièrement à cette démarche.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Thank you.